France Culture. Signe des temps. Marc Wetzmann.
Bonjour à tous. L'annonce par Donald Trump dès son intronisation du lancement d'un bitcoin à son effigie d'une part et du projet Stargate de 500 milliards de dollars investis sur 4 ans dans le développement de l'intelligence artificielle d'autre part, dit à elle seule la magnitude du séisme que nous nous apprêtons à vivre. L'Amérique qui nous est familière, avec laquelle nous avons grandi, celle du common man, de l'homme moyen et démocratique créé par l'administration Roosevelt pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a contribué à forger et maintenir l'ordre international après 45, cette Amérique qui a permis les droits civiques et qui voulait défendre le monde libre pendant la guerre froide, celle qui a cru gagner la guerre froide aussi, est morte, emportée par ce mouvement mondial né il y a un quart de siècle entre le 11 septembre et la création d'Internet et que nous appelons populisme. Par quoi est-elle remplacée ? Quel visage effrayant offre cette nouvelle Amérique ? Dans quel avenir nous plonge-t-elle déjà ? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec, pour en parler, Yasha Monk. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, professeur à l'université Johns Hopkins, professeur invité à Sciences Po, Paris. Vous avez écrit « Le piège de l'identité, comment une idée progressiste est devenue une idéologie délétère » aux éditions de l'Observatoire en 2023. Avant cela, la grande expérience « La démocratie face à la diversité et le peuple contre la démocratie ». Vous tenez également sur Substack le site Persuasion en français et en anglais. Et vous avez un site par ailleurs, yashamonk.fr. Et Gilles Gressani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Grand Continent, vous présidez le groupe d'études géopolitiques et vous enseignez à Sciences Po. Vous êtes le co-auteur du collectif Portrait d'un monde cassé, l'Europe dans l'année des grandes élections, sous la direction de Giulio D'Ampoli chez Gallimard en 2024. Alors, les États-Unis, cette élection, je vais commencer par vous, Yasha Monk. Vous avez publié récemment sur Persuasion, justement, un papier qui s'appelle le populisme aspirationnel, en quelque sorte, de Donald Trump. Vous revenez sur une comparaison entre l'élection de 2016 d'abord et cette élection. Les mêmes politologues qui avaient catégoriquement affirmé que Trump ne pourrait jamais gagner une élection présidentielle se sont rapidement ralliés à une interprétation de son succès en 2016, disant qu'il s'agissait d'un populiste autoritaire divisant l'électorat entre les vrais Américains et les autres, et que sa base électorale était celle de blancs âgés qui avaient connu un déclin de leur statut social. Et aujourd'hui, on a assisté, avec cette élection, à quelque chose de très différent.
C'est toujours fait ça. Alors, la tâche primaire des philosophes, des politologues, est de regarder les concepts politiques et de faire les distinctions entre deux parties d'un concept qui sont séparables, qui ne vont pas forcément l'un avec l'autre. Et il me semble qu'on a failli à cette tâche pendant les dernières 10 ans. Alors, dans la lecture complètement dominante des politologues qui regardaient ce phénomène du populisme, incarné tellement clairement par Donald Trump, on disait que deux choses sont vraies au même temps. Que c'est un populisme parce que c'est un mouvement qui dit que moi, je suis la vraie voix du peuple et donc il n'y a pas de limite légitime à mon pouvoir, ce qui est très dangereux pour les démocraties. Et l'idée que ça incarne les majorités ethniques, ça s'est nourri dans le cas américain de cet électorat vieux, blanc, âgé, qui est en train de faire sa dernière rébellion contre les changements inévitables d'une société de plus en plus diverse. Et on voyait donc Trump comme quelqu'un qui défendait la tyrannie de la minorité de cette partie de la population contre l'histoire, contre l'histoire, le futur. Ouais. Et ce qui me frappait dans le discours d'inauguration de Trump, mais aussi dans les faits sociologiques sur pourquoi il a gagné cette deuxième présidence en novembre de 2024, c'est en fait que ces deux choses ne vont plus ensemble, que très clairement, Trump continue à être un danger pour les normes démocratiques. Par exemple, quand il parle d'utiliser le militaire pour des tâches domestiques à la frontière avec le Mexique, ce qui est clairement inconstitutionnel, mais que de l'autre côté, il a élargi sa coalition électorale. Il a été élu à cause de soutien des Latinos, des Américains d'origine asiatique, même des Afro-Américains. Et dans son discours, il, de manière très claire, les a remerciés pour être devenu la deuxième fois le président. Il a même dit d'une manière peut-être perverse, mais vraiment remarquable, que ce serait lui, Donald Trump, à réaliser le rêve de Martin Luther King. Et ça change un peu l'aspect de qu'est-ce que c'est vraiment ce populisme. Quand on pensait que c'était cet électorat de vieux blancs, etc., on disait que c'est les gens qui ont peur parce qu'ils ont perdu à cause de la mondialisation, qui sont très pessimistes, qui veulent quelqu'un qui leur protège, quelqu'un qui fait retourner le monde dans le passé. Mais ça n'est pas, je crois, le monde des Latinos, d'autres minorités ethniques américains, qui, eux, sont pas, ont pas de nostalgie pour le passé, un passé dans lequel ils étaient vraiment marginalisés, exclus de la société américaine, et qui sont plutôt optimistes, qui pensent qu'en fait, ils ont plus d'argent que leurs parents, que il vient de conquérir une vraie place dans la société américaine, que oui. Peut-être ils sont même en train de commencer de vivre un rêve américain. Et alors donc, cette phrase du populisme aspirationnel, qui reste donc populiste, qui reste dangereux pour les institutions démocratiques, mais qui est tant plus puissant parce que il a manière de s'adresser à tout un peuple d'une manière beaucoup plus optimiste, leur donnant une vision du futur qui attire.
Effectivement, il a parlé de Martin Luther King, parce qu'en plus il a fait son discours le jour de Martin Luther King, de la fête de Martin Luther King. Et parmi les, vous dites que parmi les décrets annoncés, il y a la promesse de rétablir l'ordre dans les villes américaines, qui résonne parmi les segments les plus pauvres et les plus diversifiés de son électorat, après les manifestations des fans de police et tout ça. La promesse de rétablir la liberté d'expression, largement pas populaire parmi les électeurs non diplômés, et même la promesse de forer le pétrole, d'accroître la production du pétrole, largement populaire parmi les électeurs qui se concentrent davantage sur la réalisation de leur rêve américain, comme vous le dites. Ça recoupe un peu le papier qu'a écrit l'essayiste Martin Gurry dans The Free Press, qui dit que lors de son premier mandat, l'énergie de Trump était concentrée sur la négation du système, une forme de nihilisme, et que cette fois-ci, toutes les pensées sont tournées vers l'action. Et le programme des 500 milliards de dollars pour l'intelligence artificielle, ça va dans ce sens, ça va dans l'idée de renouer avec une mythologie du voyage sur la Lune dans les années 60. Même la référence à Martin Luther King sonne comme une sorte de référence aux années 60, en quelque sorte, et Musk représentant une forme de privatisé de la NASA en direction de Mars. Bizarrement, ce que dit Martin Gurry, c'est que la transformation de Trump s'explique par plusieurs facteurs. D'une part, 4 années d'exil à Mar-a-Lago a ruiné son premier mandat. La proximité d'esprit vif et plus jeune comme celui de Musk. La victoire, évidemment. Mais aussi, dit-il, l'ascension de Javier Milei en Argentine. Milei qui, comme Trump et comme Berlusconi avant ça, est une personnalité qui vient de la télévision et puis aussi de YouTube, plutôt qu'un membre de la classe politique argentine au départ. Mais c'est aussi un économiste de formation et c'est aussi un libertarien fanatique. Et là, il y a quelque chose d'étrange, c'est que, effectivement, Trump est entouré de libertariens, mais lui-même ne l'est pas. Et ce que dit Martin Gurry, c'est que c'est son instinct premier. Ce serait plutôt le contraire des libertariens, ne serait-ce qu'avec les tarifs douaniers. Gilles Cressani, vous avez publié un article de Peter Thiel, qui est l'un des grands gourous des libertariens dans le Grand Continent. Qu'est-ce que vous pensez de cette espèce de contradiction entre, d'un côté, cette école-là dont il se réclame d'une certaine façon, et puis d'autre part, son nationalisme et son protectionnisme?
Je
pense qu'il y a un mot qui arrive à résoudre un peu toutes ces contradictions, qui est le mot empire. Et ce qu'on est en train de voir de manière de plus en plus accélérée, de plus en plus rapide, c'est effectivement une consolidation impériale. Quand Donald Trump prend la parole au Capitole, il prend la parole dans une cérémonie d'investiture totalement exceptionnelle. Pour un point, d'abord, c'est que c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis que le président est institué à la présence de chefs d'État ou de gouvernements étrangers. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'ils sont disposés un peu, on peut penser au tableau de David, le sacre de Napoléon, ils sont disposés pour assister à cette scène, qui est une scène primaire. Dans l'histoire politique des États-Unis, on fait très attention à ne pas mélanger l'imperium qui s'adresse à l'extérieur avec l'imperium qui est civil et qui en fait joue à l'intérieur du pays. Et donc effectivement, l'investiture du président des États-Unis est un événement civil qui s'adresse aux citoyens. Et d'ailleurs, son discours est un discours qui s'adresse aux citoyens, mais qui propose en réalité un projet impérial. Avec un point de rupture radical par rapport à l'histoire récente, mais quand même longue du XXe siècle. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la frontière géographique est bouclée pour les États-Unis. Il n'y a pas d'annexion territoriale, il n'y a pas de conquête territoriale. Évidemment, il y a des bases militaires sur la planète. Évidemment, il y a des coups d'État qui sont fomentés. Évidemment, qu'il y a des alliances plus ou moins coercitives. Mais il n'y a pas, et c'est ça une distinction fondamentale entre les États-Unis et les empires européens, il n'y a pas de conquête territoriale. Les États-Unis n'avalent pas de la terre.
Bah, l'Alaska, c'est quand même 59, non ?
On parle du XXe siècle.
Oui, mais c'est l'Alaska, à moins que je me trompe complètement, c'est 1959, je ne rêve pas.
Mais surtout, la question c'est celle de... La question qui se pose est celle d'un système qui a ouvert une autre frontière. Oui. Et la frontière qui est ouverte, c'est le spatial, c'est la technologie. C'est la conquête par la technologie, par l'innovation, du futur. Et c'est donc cette nouvelle frontière qui continue la destinée manifeste des États-Unis et qui donne sa chair, qui donne sa force au projet américain. Et là, Donald Trump fait quelque chose qui est particulièrement intéressant parce qu'il articule ces deux échelles. Il articule à la fois l'annexion territoriale, en tout cas la menace de l'annexion territoriale. Ça va du Panama jusqu'au Groenland. Et pour cela, il faut vraiment regarder de très près la conférence de presse qu'il donne le 7 janvier à Mar-a-Lago. Il a évoqué à nouveau le Panama dans son discours d'investiture. Et en même temps, évidemment, il y a cette question, la conquête de Mars.
Oui.
Et là, il y a quelque chose qui, à mon avis, est absolument essentiel. C'est que la différence qu'il y a entre le projet de 2016 et le projet de 2025, c'est qu'en 2016... Souvenez-vous, le sujet principal, c'était la frontière, c'était le mur. Il fallait boucler encore plus définitivement le mur. Alors que là, évidemment, c'est le contraire, c'est l'ouverture d'une nouvelle frontière. Et cela est permis par quoi ? Par ce dont vous parliez. C'est au fond cette espèce d'étrange coalition qui a porté Donald Trump au pouvoir, dans laquelle il y a à la fois les rednecks, à la fois la partie fâchée et un peu facho de la société américaine, et en même temps aussi les grands oligarques de la tech, avec leur capacité, leur infrastructure numérique, avec leur culture, leur incapable capacité de parler du futur, de se projeter dans le futur. Et c'est un peu cet alliage entre deux choses qui ne sembleraient pas aller de soi. La Silicon Valley et effectivement, disons, la dimension un peu plus des territoires perdus des États-Unis, qui fait la force de ce projet et qui donne aussi quelque chose de particulièrement étonnant. Parce que, au fond, s'il y a un projet impérial, on pourrait dire qu'aujourd'hui, on n'est pas face à un populisme, on est face à quelque chose que les Français ont déjà connu, le bonapartisme, et qui en fait remonte à beaucoup plus loin, le césarisme.
Je vérifiais pendant que vous parliez quand même sur l'Alaska, hein, pour ne pas dire tout à fait n'importe quoi. En fait, l'Alaska est incorporé mais non organisé aux États-Unis et il ne fait vraiment partie des États. Il devient le 49e État le 3 janvier 1959. Donc on a quand même raison tous les deux. Sur ce côté bonapartiste, est-ce que c'est vraiment ça qu'on peut dire, Yachamunk? Il me semble qu'il y a quand même au sein du camp Trump ou de la configuration Trump, il y a plusieurs clans qui s'affrontent et qui sont vraiment très très différents les uns des autres. C'est-à-dire que d'un côté, on a Elon Musk et Tucker Carlson qui sont la tendance la plus franchement d'extrême droite, en particulier Tucker Carlson, qui est pratiquement pro-iranien, pro-russe ouvertement, et voire pro-chinois. Il y a Steve Witkoff, l'envoyé de Trump au Moyen-Orient, qui fait lui aussi, qui est plutôt mondialisant, qui a fait une partie de sa fortune avec le Qatar. On a en face Marco Rubio, au département d'État, qui représente plutôt une tendance beaucoup plus traditionnelle du Parti républicain, interventionniste. Et puis il y a le camp nationaliste, isolationniste, qui est représenté par Steve Bannon, Vance dans une certaine mesure, et qui déteste littéralement Musk.
Oui, je crains que l'idée que l'Amérique devienne un nouveau empire soit peut-être un peu très brillant, très éloquent, mais peut-être pas tout à fait vrai.
Ouais.
C'est-à-dire que pour moi, il y a des tensions certainement dans la politique étrangère de Donald Trump. On voit qu'il y a des conseillers, par exemple, qui sont très sceptiques de la Russie, qui veulent soutenir l'Ukraine. Il y en a d'autres qui veulent très bien vendre l'Ukraine à Poutine s'il veut bien payer un bon prix pour gagner cette guerre. Mais pour moi, chez Donald Trump, il y a une forme de cohérence assez claire, finalement, sur la politique étrangère. Et c'est la pensée des sphères d'influence.
C'est la définition de l'Empire.
Ouais, mais si ça, c'est la définition de l'Empire, c'était le cas pendant très longtemps aux États-Unis aussi. Alors, c'est la doctrine de Monroe,
oui,
mondialisée. C'est-à-dire que Trump dit, nous, on veut s'imposer complètement sans regarder les intérêts de nos alliés dans notre sphère d'influence. On veut peut-être même élargir notre sphère d'influence. La Groenland est déjà un peu fait part déjà de la sphère d'influence de l'Américain. Il y a une base militaire là-bas, mais on veut consolider cette sphère d'influence. Et en même temps, pour les mêmes raisons, on n'est pas particulièrement gêné si Poutine dit peut-être l'Ukraine fait partie de notre sphère d'influence. Et si Pékin dit, en fait, le Taïwan, ça fait part de notre souveraineté, on peut faire ce qu'on veut. Et évidemment que je trouve ça très dangereux. Mais de dire que c'est un départ complètement nouveau, c'est peut-être quand même erroné. Ça va contre la position internationaliste qui a fondé l'OTAN et qui était la base de la paix après la Deuxième Guerre mondiale. Mais je ne crois pas qu'on a besoin de concepts particulièrement compliqués pour comprendre ce que se passe.
Le concept empire est un concept, disons, plus simple que populisme inspirationnel. C'est un concept, en fait, de l'histoire longue, des relations internationales, du pouvoir. En fait, en réalité, on pourrait même dire que c'est le concept de fondement de la souveraineté ou de la puissance. Et c'est difficile à dire, enfin en tout cas en vous entendant sur les ondes de France Culture, je remarque que vous êtes en train de définir un empire. La seule petite différence, c'est que c'est sur quel espace aujourd'hui que se projette l'empire tel qu'il est assumé dans son tournant trumpiste. C'est là, je pense, qu'il y a le point qui est vraiment délicat. C'est que la construction de l'Occident, jusqu'ici, reposait sur l'idée d'une alliance, certes par plein de côtés asymétriques, mais dans lequel, au fond, on pouvait imaginer des formes de concertation. Et l'OTAN, évidemment, c'est une alliance un peu paradoxale. C'est une alliance très puissante, où évidemment, c'est difficile de dire que tout le monde vaut la même chose, mais où il y a quand même un respect profond des limites territoriales des alliés. Et là, le Groenland, c'est pas un hasard. C'est, à mon avis, c'est quelque chose qui ressemble presque au rite d'initiation. C'est au fond le fait de dire l'OTAN fonctionnera sous ma domination, comme quelque chose qui ressemble beaucoup plus au pacte de Varsovie. C'est-à-dire un pacte, une alliance qui en fait a la forme de l'alliance, mais qui est asymétrique, unilatérale et transactionnelle, et où au fond, ce qu'on conteste et on met en question d'une manière un peu profonde, c'est l'indépendance et la souveraineté. Et au fond, qu'est-ce que c'est un empire sur l'Occident? Parce que c'est ça le fond du projet. C'est quelque chose dans lequel il y a un seul acteur, une seule entité qui a la souveraineté géopolitique, parce que c'est le seul acteur qui a la puissance numérique et militaire. Et c'est ça la force du projet qui est propulsé aujourd'hui par Donald Trump, c'est de proposer aux techno-césaristes, aux grands magnats, aux grands oligarques de la tech, un monde dans lequel, dans l'Occident, il n'y aurait plus de régulation. Dans lequel, effectivement, on pourrait imaginer un Elon Musk comme une espèce de capitaine d'une nouvelle compagnie des Indes qui règle les relations avec les épices contemporaines, c'est-à-dire en fait les données, et qui gère aussi, et on le voit d'une manière très musclée, des leaderships qui ne conviennent pas aux intérêts américains. Donc, il les affaiblit, il les neutralise, il fait émerger des formes de leadership différentes. On le voit au Royaume-Uni en ce moment, qui est évidemment un espace plus perméable parce qu'ils ont le malheur de parler la même langue. Mais on le voit aussi en Allemagne, où il y a des élections dans quelques semaines, où effectivement, il y a une campagne proactive de la part d'Elon Musk pour soutenir l'AFD. Et là, on se retrouve face à quelque chose, à mon avis. C'est toujours très difficile de marquer des ruptures, mais il y a quand même quelque chose qui s'est passé le 20 janvier. Je pense qu'il faut le regarder pour ce qu'il est. Il ne faut pas en avoir peur. Je pense qu'aujourd'hui, une partie des Européens sont tétanisés par le fait de voir Donald Trump. C'est un peu le lapin qui traverse la rue et qui voit, et qui voit une voiture avec les phares. Je pense qu'il faut le reconnaître pour ce qu'il est. C'est un projet. Et comme le disait Mike Tyson, un projet, tout le monde a des projets jusqu'à ce qu'il reçoive une droite dans la figure.
Il n'y a pas forcément une complète contradiction. Hein. Dans le populisme aspirationnel, de fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'on voit ce nihilisme qui est mondial, qui est entièrement axé sur la destruction depuis 20 ans, se retourner en quelque sorte de manière positive, d'une certaine manière, avec une sorte d'enthousiasme. Voilà, on va construire l'avenir. Jusqu'à présent, on n'a jamais vu ça dans aucun des pays. C'était une des formes de populisme conservateur ou réactionnaire ou nostalgique, mais c'est pas le cas dans chez Trump 2024.
Je crois qu'il y a de côté de ça aussi dans les certains d'autres populismes. Alors si on regarde des figures comme Narendra Modi aux Indes ou même comme Recep Erdogan en Turquie, c'était toujours la représentation politique d'une classe économique qui est en train de gagner, d'une petite bourgeoisie ou même prolétariat qui est en train de se développer, de la première génération qui a pu aller à l'université, qui font beaucoup d'argent, et que disent en fait que les restrictions à leurs valeurs, à leur vision d'un bon futur de leur pays, qui ont mis sous le pays les élites traditionnelles, comme les sécularistes en Turquie, ou la génération des fondateurs d'un Inde multiconfessionnel aux Indes, n'ont pas voulu faire donner voix à cette vraie volonté du peuple. Et alors, dans le cas de Modi, c'est très clair que le développement économique, un certain optimisme sur le futur économique des Indes, allait toujours ensemble avec ce majoritarisme religieux dans ce cas-là, la volonté d'imposer ses propres valeurs sur le pays. Pour retourner pour un moment aux relations internationales, je crois qu'on comprend mal Trump si on pense qu'ils veulent juste élargir le pouvoir américain. C'est un mix intéressant parce que dans ses discours, dans les discours des intellectuels qui essayent un peu de donner cohérence au Trumpisme, ce qui est une tâche très difficile certainement, il aime bien parler du fait que c'est George W. Bush et Barack Obama qui voulaient l'empire américain. Qu'en fait, l'idée que l'Amérique soit la police mondiale, ça, c'est l'idée impériale. Eux, ils veulent plus faire ça. Ils disent, en fait, c'est pas dans notre intérêt de maintenir la paix en Europe. C'est pas dans notre intérêt de faire tous en Moyen-Orient.
Il l'a dit d'ailleurs au Moyen-Orient, c'est pas notre guerre.
On revient chez notre partie du monde, mais là, évidemment, il faut être fort.
On défend nos intérêts. On défend nos intérêts, voilà. Et en revanche, alors, évidemment, les aspects impériaux, ils sont dans la crypto-monnaie, déjà. Une crypto-monnaie à l'effigie de Donald Trump, ça fait évidemment penser aux empereurs romains de l'Antiquité, et aussi dans le fait que Musk est la personne dans l'histoire de l'humanité n'a été aussi riche que Musk, ni n'a eu autant de pouvoir de fait qu'Elon Musk. C'est unique. Il y a quelque chose qui est littéralement pharaonique, presque plus que franchement impérial. Et vous disiez, Gilles Cassani, que si le pari de Trump sur le Trump coin fonctionne, il sera plus riche que Musk lui-même.
Sur ça, on a fait des prévisions. Évidemment, c'est difficile de prendre au sérieux jusqu'au bout cette logique-là, mais si on faisait des scénarios aujourd'hui, et on valorisait, on disait que finalement, le Trump official, donc le meme coin lancé deux jours avant l'investiture par Donald Trump, atteignait les $500 de valorisation. De fait, Donald Trump serait à la fois l'homme le plus puissant et l'homme le plus riche. Il faut prendre cela à la fois comme une provocation, à la fois comme quelque chose qui, effectivement, revient à cette logique-là.
C'est un test in vivo.
Voilà, et avec aussi cette question qui est vraiment... au fond, on se retrouve face à un laboratoire du futur qui est mené par les hommes les plus puissants avec les hommes les plus riches et qui essaye d'imbriquer... En quelque part, en fait, la vraie contradiction, c'est il y a une partie de la Silicon Valley qui considère qu'il faudrait dissoudre la souveraineté politique. C'est un peu la position de Peter Thiel.
Oui,
il y a une autre partie de la Silicon Valley qui, en fait, s'accommode très bien de la souveraineté politique à condition qu'elle fasse passer l'Amérique à l'échelle. Cette notion de scale qui est très présente dans l'imaginaire business de la Silicon Valley. Donc, faire passer à l'échelle signifie, au fond, arriver à obtenir une croissance exponentielle, faire du levier, être capable d'utiliser quelque chose pour croître énormément. C'est ça qui a contaminé le cœur du Trumpisme. C'est ça qui lui a donné sa force, justement, dans un futur. Et le Make America Great Again, la question qu'on se posait en 2016, c'était quand est-ce que l'Amérique a été grande, mais on regardait le passé. Make America Great Again en 2025, en fait, tout le monde voit très clairement
vers le futur. Et un article du Monde d'hier, je crois, du début de la semaine plutôt, disait que vendu $10, le Trump coin s'est envolé au-dessus de $70, que la valeur totale des jetons numériques numérotés à l'effigie de Trump a explosé à $12 milliards. Ce qui est 11,7 milliards d'euros. Si on prenait en compte les jetons conservés par la famille Trump, mais non échangeables en bourse, la valorisation atteignait près de $60 milliards il y a 8 jours. Évidemment, un des byproducts, si on peut dire, de cette monnaie virtuelle, c'est la possibilité des conflits d'intérêts massifs, voire des influences étrangères. C'est-à-dire que n'importe quel État, n'importe quel dirigeant peut verser directement de l'argent, peut acheter des bitcoins en 3 clics. Donc on rentre là dans quelque chose qui est complètement inédit, en fait, Yasha Monk.
Oui, complètement. Et c'est clair que c'est une manière très élégante pour d'autres pouvoirs d'influencer le gouvernement des États-Unis, de montrer leur loyauté à Donald Trump et de cette manière l'enrichir. Je suis un peu sceptique que cette monnaie va continuer à avoir beaucoup de valeur pendant longtemps. On verra, c'est possible. Mais typiquement, ce que se passe avec beaucoup de ces meme coins, ces monnaies qui sont fondées avec beaucoup d'intérêt dans les réseaux sociaux à un certain moment, c'est qu'ils prennent beaucoup de valeur parce qu'ils sont soutenus par la spéculation qu'on peut avoir cette monnaie pour quelques jours, pour quelques semaines et s'enrichir. Et à un certain moment, qu'on avait pris beaucoup de valeur, les gens qui maintenant sont... les propriétaires de cette monnaie la vendent parce qu'ils voient qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup d'argent. Et dans ce moment-là, la monnaie crolle. Alors, on verra si tout à fait elle maintient ce valeur. Et je crois qu'il y a une manière de lire cette monnaie en complète continuation avec le caractère, l'histoire de Donald Trump qui a essayé de faire des frics de manière vite... avec son fausse université, Trump University, avec des affaires avec la viande, avec ses casinos.
Oui, mais
c'est juste la dernière incarnation
De fait, il n'y a pas que ça. Melanie Trump, de son côté, a signé un contrat de $40 millions avec Amazon pour tourner un documentaire sur elle. Avec des apparitions de Donald Trump. Donald Trump vend une série d'objets arborant les chiffres 45 et 47, marquant sa place dans la lignée des présidents américains. Et surtout, il y a la question de l'Arabie Saoudite, puisque en février de 2024, le fonds Affinity Partners créé par Jared Kushner, qui est donc marié à la fille de Trump, Ivanka, a reçu 2 milliards de dollars de fonds du fonds souverain de l'Arabie Saoudite. C'est un des éléments qui est en arrière-plan des négociations sur le Moyen-Orient, évidemment. C'est-à-dire que la politique étrangère et les affaires personnelles fonctionnent à plein. Ça n'a pas commencé avec Trump, puisqu'on a vu depuis que le fils de Joe Biden était lui-même impliqué dans un certain nombre d'histoires avec, dans toute connaissance de cause de son père. Donc c'est pas nouveau, mais ça prend avec le clan Trump des dimensions de
c'est une autre dimension, clairement.
De folie, ouais. Gilles Vassamy.
Oui, c'est-à-dire qu'au fond, là aussi, on a cette logique qui est une contradiction entre, d'un côté, l'envie et la très forte puissance, cette forte énergie de Donald Trump d'écarteler le système institutionnel, de le transformer en quelque chose de différent, de lancer une présidence impériale, donc au fond, en essayant de faire taire la Cour suprême, de faire taire la branche législative, d'accumuler autour de lui les armes, la puissance pour pouvoir lancer quelque chose de différent. Et c'est là aussi qu'on voit cette tentation impériale qui s'incarne. Et en même temps, il ne faut pas, encore une fois, tomber dans le piège en disant c'est fini. Désormais, on a Donald Trump à vie, la démocratie américaine, ça a tourné la page. Même si, évidemment, ce sont des composantes très fortes. Et on voit aussi une contamination de ce discours jusqu'à l'Europe. Au fond, cette idée que la démocratie soit inefficace, la gouvernance démocratique soit nulle, il y a de l'indécision. Et de fait, quand on compare la qualité du débat public français-européen, son ambition et son futur avec les projets qui sont mis sur la table, lancés par Donald Trump depuis qu'il est président, on s'étonne de la différence entre un système qui pense fondamentalement être rentré dans une lente agonie et de l'autre, un système qui se dit « je vais conquérir Mars ». Mais non, je crois que c'est important de se dire que l'Amérique de Trump, ce n'est pas la Russie de Poutine. Ça reste aujourd'hui une démocratie et qu'il faut en réalité se poser la question de plus en plus. Et peut-être en fait, une partie de la solution se retrouve dans cette partie du monde, dans ce petit cap de l'Asie qu'on a toujours l'impression de traiter comme si c'était un peu effacé de l'histoire, sorti de l'histoire, l'Europe, où au fond on peut donner des éléments et des instruments pour permettre à la démocratie américaine de résister à cette espèce de rapport de force interne qui essaie justement de changer la donne.
C'est-à-dire qu'il y a aussi en Amérique même, aux États-Unis même, des formes de contre-pouvoir. On le voit même dans la presse, et pas nécessairement la presse la plus à gauche, hein, des journaux comme The Free Press qui ont été dans lesquels il y a des articles qui sont pour Trump et d'autres contre, qui prennent la position contre très fermement même, contre le pardon de Trump aux émeutiers violents du 6 janvier. Donc il va y avoir des résistances. Et puis il faut pondérer aussi ces histoires d'argent en rappelant quand même que la plus chère des deux campagnes électorales de la dernière élection était celle de Kamala Harris et pas celle de Donald Trump. Donc c'est des choses qu'il faut garder en mémoire. Je voudrais finir cette émission sur, il nous reste une dizaine de minutes, sur deux questions. La première, c'est celle de ce que vous dites, Gilles Gressani, dans une interview que vous avez donnée au Figaro récemment. Par une sorte de ruse de la raison, ce sont les souverainistes en France et en Europe qui risquent de devenir les idiots utiles de la vassalisation américaine du continent. Et on l'a vu à l'intronisation de Donald Trump, les responsables politiques qui étaient là, il y avait évidemment Giorgia Meloni, il y avait Éric Zemmour et Sarah Knafow. Pas dans la même salle, oui, quand même. Mais alors, très étonnamment, il n'y avait pas non plus Viktor Orban. Et ça, c'est quand même une question. Alors que Viktor Orban a été le leader hongrois, a été la référence vraiment politique des Trumpistes depuis 2016, ouvertement, explicitement. Pourquoi n'était-il pas là? Est-ce qu'on sait?
Alors, on sait ce qu'il dit. Ouais. Il dit qu'il revendique le fait de. On n'est pas censé assister. Le président des États-Unis, pour le protocole, n'invite pas des chefs d'État et de gouvernement, donc il aurait fallu qu'il demande de pouvoir assister. Il considère que ce n'est pas de sa dignité. En réalité, je pense qu'il y a une question plus de fond qui touche cette question du souverainisme et de son impasse dans l'ère de Trump. C'est que, au fond, le modèle économique de la Hongrie d'Orban est quand même très fortement appuyé sur la Chine. c'est par l'industrie automobile qu'une partie de la croissance importante de la Hongrie se fait. Il est très instable sur la base interne, avec une opposition qui est de plus en plus forte. Et lui-même, il se pose la question de est-ce que j'aurai des marges de manœuvre si on se trouve dans une forme d'alignement où au fond, je dois, comme à l'ère du pacte de Varsovie, décider du jour au lendemain de couper mes ponts avec la Chine. Et c'est un sujet, je pense, qu'il faut aborder d'une façon sérieuse. Moi, j'étais très frappé dans l'entretien que Elon Musk réalise sur X avec Weidel, donc la candidate à la chancellerie allemande, donc la première économie européenne de l'AFD.
Il y a un moment... d'extrême droite.
D'extrême droite. Il y a un moment dans lequel Elon Musk lui demande à Weidel de se positionner sur Israël et le Moyen-Orient. Il lui dit « Quelle est votre position ?» Et elle ne sait pas répondre. Il lui donne pas de réponse. Il lui demande « Quelle est votre position à vous, Elon Musk ?» Et je trouve que ça dit assez fortement quelle est la situation dans laquelle, dans le meilleur de scénarios, pourrait se retrouver le monde selon si en fait tous les rêves les plus fous d'Elon Musk et Trump se réalisaient, on n'aurait que des chefs d'État et de gouvernement en Occident comme ça, qui fondamentalement arrivent au pouvoir, mais qui, dès qu'ils arrivent au pouvoir, cèdent les clés pour tout ce qui est essentiel à la Maison-Blanche. Et c'est là qu'il y a évidemment un paradoxe, parce qu'on pourrait se dire, le cas de Mélanie, un pouvoir souverainiste aujourd'hui soutenu par les États-Unis, il pourrait transformer la société. En réalité, ce qui apparaît de plus en plus évident, c'est qu'une forme du souverainisme européen, avec des distinctions, parce que par exemple, le Rassemblement national n'est pas allé à Washington, et ce serait intéressant d'analyser la raison, mais une partie des souverainistes en Europe, en fait, ils ne promettent pas de transformer la nation, ne permettent pas de changer la société, mais plutôt le contraire. De continuer à partager des dividendes de la paix qui sont de plus en plus faibles, faisant un geste d'inflexion, de genuflexion vis-à-vis du nouvel empereur. Et c'est au fond, j'ai essayé d'appeler ça une vassalisation heureuse, qui est peut-être aujourd'hui la convergence entre une partie des élites européennes qui ont peur de prendre des décisions et de se positionner, et une partie des souverainistes.
Mais il y a Chamoun, sur cette histoire de soutien de Musk au parti d'extrême droite européen et à l'offensive contre les Russes, contre certains gouvernements au Royaume-Uni en particulier, est-ce que c'est uniquement de l'idéologie d'extrême droite de la part de Musk, ou est-ce qu'il faut prendre au sérieux ce qu'il dit sur la liberté d'expression par exemple en Angleterre, clairement l'histoire des gangs pakistanais? Moi j'ai le sentiment qu'il y a quand même cette idée que tout doit être mis sur la table, et que c'est ce qu'on trouve aussi dans l'article de Peter Thiel, l'un des principaux libertariens que vous avez publié dans le Grand Continent, Gilles Cresciani, cette idée que tout doit sortir, qui est quand même à l'origine de la révolution populiste qui va avec Internet, c'est-à-dire que soudainement des forces qui étaient marginalisées se retrouvent au centre, et c'est là-dessus que s'appuie notamment Trump et Musk, mais pas forcément toujours à tort. C'est-à-dire que c'est des forces qui existent, c'est pas juste simplement des manipulations politiques, non ?
Il y a deux choses là. La première, c'est que la conception américaine de la liberté d'expression est très différente de la tradition européenne. Ça n'est pas juste Elon Musk ou Donald Trump, c'est la grande majorité de la population américaine qui partage cette conception-là. Et dans cette conception, il a des limites très, très, très limitées à l'expression de l'opinion. On ne peut pas dire, par exemple, que vous avez une maladie que vous n'avez pas. Mais on peut très bien faire des propos politiques extrêmes, même des propos politiques qui seraient très clairement illégales en France. Et il y a une grande colère, pas juste chez Mark Zuckerberg et Elon Musk, mais pendant une majorité de la population américaine, selon les sondages, contre le fait, par exemple, que l'administration de Joe Biden a vraiment dit à Meta, à Facebook, vous ne pouvez pas publier ça, vous pouvez publier ça. Et je crois que là, surtout dans un moment où il y a beaucoup de forces politiques illibérales et populistes qui sont dangereuses, on ferait bien à comprendre un peu mieux cette tradition aussi en Europe. Parce que l'idée que le gouvernement va toujours être de la part des biens, des bons, des tolérants, est assez naïf, assez naïve dans une période où il n'y a pas juste Viktor Orban au gouvernement en Hongrie et Giorgia Meloni au gouvernement en Italie, mais où il y a aussi des forces politiques comme l'AFD qui sont en train de croître. La deuxième chose, mais sur Musk spécifiquement, l'idéologie et sa valorisation de la liberté d'expression sont liées, parce qu'on sait assez bien, il l'a dit de manière assez claire, pourquoi il a acheté Twitter, l'a transformé en X, et alors peut-être pourquoi Donald Trump finalement a gagné cette élection, que sans X serait été plus difficile. Et c'est parce que Musk dit, pense, qu'il y avait une acceptation de ce qu'il nomme une idéologie transgenre dans toutes les institutions les plus puissantes de la société américaine, qui a accepté par exemple des traitements médicaux pour les mineurs, qui ne sont pas du tout légaux en beaucoup de parts d'Europe, et qui pour cette raison, son enfant à lui a fait des décisions médicales qu'il regrette, que Elon Musk regrette, qu'il pense que pose des sérieux dangers pour leur santé. Et alors pour lui, cette idée de s'opposer à ce qu'il voit comme une idéologie identitaire de gauche et de défendre la liberté d'expression, c'est très lié. Parce que dans ce cas-là, les deux choses se touchent.
Oui, parce qu'il considère que les réseaux sociaux ont été instrumentalisés par l'administration Biden pour une part et par les idéologues de gauche pour une autre part pour véhiculer un certain nombre de messages et pour en censurer d'autres. Et de fait, il y a un certain nombre d'informations aux États-Unis ne sortent que maintenant, comme par exemple le nombre de délinquants sexuels hommes qui ont été incarcérés à leur demande dans des prisons pour femmes, et les conséquences de ça aujourd'hui, ça n'est pas sorti pendant des années, ça commence seulement maintenant à sortir. Donc il y a toute cette complexité-là qui fait qu'il y a quand même une base populaire au Trumpisme aujourd'hui aux États-Unis. On continuera ces discussions parce que il y a un certain nombre de choses dont on n'a pas parlé, comme les libertariens. Je pense qu'il faut consacrer une émission entière.
Sur les lumières noires aussi.
Oui, sur les lumières noires, tout à fait.
Within the widening gyre, the falcon cannot hear. The falconer, things fall apart. The center cannot hold, and a blood-dimmed tide is loosed upon the world. Is sacred. The ceremony sinks. Innocence is drowned in anarchy. The best black conviction given some time.
Merci à tous les deux, merci à Chamounk. Je rappelle le titre du dernier livre, Le piège de l'identité, comment une idée progressiste est devenue une idéologie délétère, aux éditions de l'Observatoire. Merci Gilles Gressani. Il faut lire Le Grand Continent et sur le site et en volume quand il sort chez Gallimard. Comme il faut lire vos livres, il y a Chamounk, et comme il faut lire votre Substack pour essayer de comprendre le monde dans lequel on est entré. C'était Signe des Temps, une émission de Marc Betzman, assisté de Aurélie Marsay, avec à la technique Marie-Claire Oubamadi et à la réalisation Luc-Jean Reynaud. Gaze as blank and
side.